Chapitre 47. Une sorcière comme ci, comme ça. Karine se demande comment elle va pouvoir questionner les gens sans parler des squelettes d'enfants. Elle sait à quel point une rumeur peut enfler et la responsabilité qu'elle porterait si le village entier était au courant. Elle a établi une liste de témoins possibles. Les deux frères Poirot, les voisins directs du terrain où se trouve la cavité. Ils sont susceptibles d'avoir récupéré des pierres en démontant les anciennes maisons. Elle a répondu à Frédéric Legrand, qui attendait sagement un message retour. Il est finalement entré dans son jeu et c'est elle qui s'est mise à guetter un signe de sa part. Ils en ont conclu qu'il était ridicule d'essayer de jouer ainsi au chat et à la souris et qu'il serait plus sage de se revoir. D'astreinte ce week-end et risquant d'être appelé à tout moment, il a préféré décaler au suivant. Il a évoqué sa petite maison de campagne sur les hauteurs, avec une vue à couper le souffle et un matelas confortable. En attendant, Karine est assise à la table sous le pommier. L'après-midi est chaude mais venteuse, de quoi moins suffoquer. Les samedis et les dimanches sont libres pour qui le souhaite. Souvent, les trois locataires du lieu continuent à aider. Difficile de s'installer dans une chaise longue pendant que les autres travaillent. Rémi a cependant promis à Karine de lui consacrer un bout de son après-midi en l'accompagnant chez les deux frères. Lorsqu'elle a demandé au maire pourquoi elle ne devait pas y aller seule, il a simplement répondu comme ça. De quoi l'inquiéter encore plus. En entendant Rémi, elle s'émeut de la scène qui se déroule sous ses yeux, à l'autre bout de l'étang. Clémence est allongée à plat ventre dans l'herbe, son téléphone à bout de bras, dissimulé derrière les ajoncs. Elle essaie de photographier les grenouilles qui prennent le soleil sur les feuilles de nénuphar. Depuis quelques jours, elle prend des clichés d'insectes, de légumes ou d'arbres, et elle reproduit l'image en aquarelle. Elle a compris qu'il fallait beaucoup copier pour apprendre, et elle progresse vite. La jeune femme recommence son enfance ici, au contact de la nature. Elle rattrape le temps perdu, rembobine la pellicule pour projeter sur l'écran de son cœur une comédie plutôt qu'un drame. Elle est à la fois la réalisatrice, l'actrice et le sujet de son propre film. « Tu es prête ?» lance Rémi à Karine en arrivant. « Je t'attendais. Regarde la petite là-bas. » Rémi tourne la tête dans la direction indiquée et sourit. Un sourire qui tente cependant de cacher son inquiétude. Adrien vient de lui faire part de la mauvaise nouvelle. Il a senti monter en lui une vague de rage dévastatrice, prête à déborder à la moindre brèche. L'ancien militaire a tenté de le rassurer. Clémence ne craint rien, ils sauront la protéger. Mais Rémi a croisé toutes sortes de profils en prison. Des gars qui n'étaient pas de mauvais bougres, mais aussi des types malsains, dangereux, dont les travers n'ont pu être qu'exacerbés par la détention. De ceux qu'on accompagne à peine en les relâchant et qui récidivent parce qu'ils ne sont pas soignés pour leur vilainie. Rémi n'est même pas sûr qu'on guérisse du sadisme ou de la violence. S'il s'écoutait, il ne la lâcherait plus d'une semelle. Il maudit ses contraintes de sécurité à lui, n'ayant le droit de se déplacer que dans un rayon de 2 kilomètres, alors que grandit le besoin de liberté de Clémence, qui commence à exprimer son envie de faire les marchés avec Capucine et de passer son permis. Comment la protéger sans l'empêcher de s'épanouir ? La maison des frères Poirot se trouve de l'autre côté du mamelon boisé, que l'on peut contourner à vélo par un chemin forestier. Les deux hommes vivent en dehors du village et manifestement de la société, dans une vieille ferme qui semble abandonnée et dont les volets branlants ne doivent plus vraiment fermer. Un tracteur hors d'âge trône dans la courette, des canards et des poules se promènent sans but apparent. Des rideaux fatigués sont accrochés aux fenêtres. Et le sol de l'entrée, dont la porte est ouverte, est de terre battue. Un chien sans beauté aboie pour faire semblant d'être de garde, puis vient les renifler vaguement avant de se recoucher sur le sol, devant la maison, las et blasé. Un vieil homme sort de la grange attenante, courbé, un béret en laine informe sur la tête et des sabots de bois aux pieds. Une cigarette éteinte coincée entre ses lèvres, il regarde les arrivants d'un œil méfiant. Il a sans doute été grand et large quelques décennies plus tôt, mais le temps l'a vidé de sa substance. Ses vêtements flottent sur lui comme les voiles d'un bateau qui revient d'une tempête. Il retourne dans la grange et crie « Ernest ! Il y a des gens !» Une petite minute plus tard, un autre apparaît. Copie conforme du premier. Même béret, même sabot, même visage buriné. Plus petit, plus fin, vêtements ajustés. Il s'approche d'une démarche claudiquante et s'arrête à 2 mètres d'eux. « C'est quoi que vous voulez ?»« Nous cherchons des personnes dans le village qui connaissent bien le coin et qui ont vécu ici pendant la guerre. Le maire nous a parlé de vous. »« Et pourquoi vous voulez causer de la guerre ?» Karine réfléchit à 1000 à l'heure. Demander des informations sans trop en donner. Un casse-tête. Surtout sous ce regard étrange qui exprime la méfiance et l'agacement. Elle jette un coup d'œil désespéré à Rémi. « Aide-moi !»« Nous cherchons à retrouver l'identité de 3 bébés. » qui seraient nés pendant la guerre dans le coin, mais qui n'auraient pas survécu. S'ils n'ont pas survécu, comment qu'on les connaîtrait? Peut-être en avez-vous entendu parler? Reprend Karine. C'est loin, la guerre. Puis des bébés qui disparaissent, on n'en parle pas beaucoup. Hein? Karine se dit à ce moment-là qu'il est déjà trop tard pour empêcher une rumeur de se propager. Il suffit qu'ils aillent au café du coin pour raconter qu'un couple cherche 3 bébés disparus pendant la guerre, et le feu de broussailles se propagera. Son seul espoir est l'absence de bistrot à 10 kilomètres à la ronde. Si elle veut interroger d'autres personnes, le problème se posera à nouveau. Elle n'a toujours pas la solution. Vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait nous renseigner ? L'homme se dirige alors, sans un mot, vers la maison, retire péniblement ses sabots sur le palier et disparaît dans la pénombre de l'entrée. S'est-il envolé comme son frère pour signifier que la discussion était finie? Va-t-il revenir? Ou doivent-ils le suivre sans y être invités? Il patiente de longues minutes, debout dans la cour, au milieu des fientes de canards et des épluchures que les poules ont délaissées. Enfin, la fenêtre s'ouvre. L'homme passe la tête entre les battants. « Ben, vous venez !» Rémi entre le premier. Une odeur étrange le saisit, pas désagréable, indéfinissable. La pièce est rangée, le mobilier sommaire, aussi ancien que les propriétaires. L'homme ne leur propose pas de s'asseoir. Il farfouille au fin fond d'un secrétaire posé dans un coin de la pièce, revient vers eux en tenant une photographie et la leur tend d'une main que le grand âge fait trembler. Un couple avec 2 enfants dans leurs bras. Un gros bébé et un autre plus chétif. À côté d'eux se tient une petite femme, souriante et fière. Le regard perçant. C'est nous sur la photo. On est jumeaux. On n'est pas, hein? À côté de notre mère, c'est la sage-femme. Je vois qu'elle aurait pu savoir quelque chose sur des bébés disparus. C'était en quelle année?
En 39.
J'imagine que cette femme n'est plus de ce monde, lui répond Karine déçue.
Assurément, ma bonne dame.
Elle a des descendants?
Une fille. Devenue sorcière, comme elle.
Sorcière?
Comme ci, comme ça.
Le frère leur explique qu'elle était connue dans le village. Elle aidait les femmes à accoucher. Elle a même sauvé leur mère quand ils sont nés. L'accouchement était compliqué et son frère a failli mourir.
Un problème avec le placenta, un truc comme ça. Bref, elle aidait aussi celle qui n'en voulait pas, si vous voyez ce que je veux dire.
Il se disait aussi à l'époque que sa fille n'était pas sa fille. Reste que cette femme était respectée, parfois crainte.
C'est pour ça qu'on parlait de sorcellerie. Il se trouve que l'une ou l'autre fois, il est arrivé des bricoles à des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle.
Elle connaissait toutes les plantes sauvages, les comestibles et les médicinales, les recettes pour en faire usage et soulager les femmes en travail, ou celles qui souffraient d'affections gynécologiques, les plantes toxiques également. Le bon dosage pour faire peur sans tuer, mais également celui pour tuer sans avoir peur qu'on vous accuse.
Peut-être qu'elle a eu à s'occuper de bébé qui aurait pas dû être là.
Vous voyez quelqu'un d'autre qui saurait?
Le Léon, là en bas, dit-il en désignant une maison à travers la fenêtre. L'ancien maire, il est encore plus vieux que nous. Il a toute sa tête, mais faut parler fort.
Soudain, ils entendent un cri en provenance de la grange.
« Faut que j'y aille. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la Caroline, elle défendait les femmes. On peut lui reprocher des choses, mais pas ça. Et sans elle, je serais pas en train de vous parler. »
Il quitte la pièce, enfile ses sabots, s'en va en grommelant quelques mots et lève la main pour les saluer sans se retourner. En repartant de chez le vieux Léon une demi-heure plus tard, Karine pense avoir fait un pas de géant dans l'enquête. Sur le chemin du retour, alors qu'elle peine dans la côte pour rejoindre les sens perdus, Rémi, qui pédale sans effort à sa hauteur, lui suggère de se renseigner avant d'aller voir la fille sorcière, comme ci, comme ça. « Et puis, tu devrais faire plus de sport !» Concentrée sur son souffle, elle ne relève pas. Elle préfère organiser dans sa tête les informations collectées jusque-là, loin d'imaginer que le petit bout de pelote qu'elle a commencé à tirer va l'amener là où elle ne s'attend pas.